France Culture.
Bonjour le Book Club, j'ai lu l'anthologie Folie, Fureur et Ferveur d'Anne Sexton et ça a été un vrai bouleversement dans ma vie de lecteur. J'avais déjà lu son premier recueil Tu vis ou tu meurs, mais celui-ci a été une vraie gifle parce que j'y ai découvert une poésie plus mature, quasiment prophétique, mystique et railleuse tout à la fois.
France Culture, le Book Club, Zoé Spez.
Une poétesse de l'ignorance, une poétesse qui rame des anges de feu, des organes génitaux, des mots écrits avant l'abysse. L'immense autrice américaine Anne Sexton, née en 1928, a marqué l'Amérique avec sa poésie dite confessionnelle, une écriture née de sa lutte effrénée contre la maladie mentale qui ne la sauvera pas du suicide en 1974 à l'âge de 45 ans. Très largement et injustement encore méconnue en France, sa voix pourtant nous parvient, notamment grâce à sa qui a entrepris de traduire toute son œuvre poétique, un travail qui aboutit avec la parution des derniers recueils écrits par Anne Sexton sous le titre Folie, Fureur et Ferveur aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. Langue d'Anne Sexton qui nous accompagne, Sabine Huyn aussi sera avec nous, avec en studio à ses côtés Laurence Bessel qui a consacré une thèse à Anne Sexton. Et puis à 16h50, on retrouve Nicole Vulser qui s'est plongée pour nous dans deux ouvrages précieux sur la financiarisation de l'édition. Et en fin d'émission, on joue au grand jeu des pages musicales. Avec vous, c'est le programme de ce Book Club. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour, bonjour Sabine Huyn.
Bonjour Zoé Spez.
Bonjour, vous êtes poétesse, vous êtes traductrice, c'est vous qui traduisez Anne Sexton en français pour ces fameuses éditions depuis un sacré bout de temps. Vous allez nous parler de cette rencontre avec cette femme, avec cette voix, aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. Et vous êtes aussi la préfacière de ces œuvres, des préfaces courtes mais bouleversantes. À vos côtés, Laurence Bessel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en littérature états-unienne à l'université Le Mans et vous avez soutenu une thèse sur Anne Sexton, notamment sur ses rapports avec Robert Lowell. On va découvrir de qui il s'agit. C'était en 2012. Fiction, confession ou fiction de soi, la poésie testimoniale de Robert Lowell et Anne Sexton. Alors on commence toujours ces émissions par demander à nos invités comment ils, elles en l'occurrence, vous avez rencontré cette figure d'Anne Sexton qui commence évidemment et qui a ses adeptes en France, mais qui est largement moins connue qu'aux États-Unis où elle a eu une influence considérable. On va y revenir bien sûr, mais j'ai envie de vous poser cette question. Vous deux, vous êtes des femmes. À quel moment vous avez découvert Anne Sexton? Peut-être vous, Sabine Huyn, comment est-ce que vous l'avez rencontrée?
Alors, je l'ai rencontrée en 1999 et il se trouve qu'à cette époque, je vivais aux États-Unis, dans la banlieue de Boston, à quelques kilomètres de là où vivait Anne Sexton. Et en fait, je vivais à Cambridge. Et à Cambridge, il y a une librairie de poésie très célèbre qui s'appelle Grolier, qui a été fondée en 1927, je crois, un an avant la naissance d'Anne Sexton. Et je suis passée un jour devant cette librairie et j'ai vu en vitrine le volume de la poésie complète d'Anne Sexton. Et ce qui m'a attirée, parce que en fait à l'époque j'avais jamais entendu parler d'Anne Sexton, j'avais la vingtaine, voilà, je lisais des poètes américains, mais différents. Et ce qui m'a attirée, c'était le portrait d'Anne Sexton en couverture.
Alors, voilà. Qui est aussi en couverture de l'édition, et ça, on remercie aussi les éditions des Femmes Antoinette Fouque qui fait souvent ça, c'est-à-dire que la photo d'Anne Sexton est là, et Anne Sexton est une femme extrêmement belle, par ailleurs, faut le dire.
Voilà, et en fait, moi, ce qui m'a attirée dans ce portrait, c'était pas le visage d'Anne Sexton, c'était ses pieds. Parce qu'elle était, elle était assise par terre et elle portait des sandales, des nu-pieds. Et donc, on voyait très bien ses pieds en premier plan. Et j'ai été subjuguée par ses pieds. Bon, je ne suis pas fétichiste des pieds du tout, mais entre les pieds poétiques et les pieds physiques. Et donc, j'ai acheté ce livre pour ce portrait, pour ses pieds. Je sais pas, comme j'aurais acheté une carte postale ou un poster, ou voilà.
Elle aurait sans doute adoré cette entrée, cette rencontre. C'était lequel? Vous savez ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez acheté?
C'était Mais quoi, c'était ce... l'œuvre complète.
C'était l'œuvre
en fait
complète.
Qui a été rééditée en 1999 parce que en fait elle avait été éditée en, enfin l'œuvre complète est sortie en 1981. Puis en 91 est sortie la biographie d'Anne Sexton par Diane Middlebrook. Et donc, 9 ans plus tard, ils ont réédité l'œuvre complète. Voilà, donc c'était les 700 pages de l'œuvre complète.
On va savoir ce qui se cachait derrière ses pieds, comment vous l'avez rencontré. Et vous, Laurence, comment est-ce que ça s'est joué, cette rencontre avec Anne Sexton?
Alors moi, je m'intéressais en fait à l'écriture de soi et à ses rapports avec la fiction. Et donc, je m'intéressais à la poésie, en fait, hein, dans la poésie. Et Anne Sexton m'est tout de suite apparue comme un cas extrême, finalement, d'écriture, de soi, à la fois parce qu'elle va, pour moi, beaucoup plus loin dans cette façon, vraiment, de lâcher sur le rapport avec l'inconscient, avec ces images fulgurantes, en fait, qui peuplent tous ses textes. Et puis il y avait aussi le fait qu'elle présentait une façon d'aborder la poésie qui n'était pas du tout représentative des autres poètes de son époque, puisqu'elle n'avait pas de formation universitaire, qu'elle était partie pour faire un parcours stéréotypé de femme au foyer, de la banlieue bourgeoise de Boston, et qu'elle entre un peu comme ça dans la poésie. Et elle, entre le début de son parcours, qui est une fascination pour le sonnet, lorsqu'elle regarde une émission à la télévision dans un style très académique, et comment par la suite elle laisse libre cours à ses images, y compris en s'opposant à des figures, des grandes figures du milieu des poètes de l'époque, et de la côte Est en particulier, il y a là tout un trajet qui m'a beaucoup intéressée.
Qui vous a paru passionnant, mais encore fallait-il que vous la connaissiez? Comment est-ce que vous l'avez connue? Parce que en France, encore une fois, alors évidemment, quand on travaille sur la poésie, on la connaît, mais est-ce que vous avez un souvenir précis de votre première lecture d'Anne Sexton? Ou ça vous paraît loin?
Alors, la première lecture d'Anne Sexton, c'était To Bedlam and Partway Back, je pense.
Qui est son tout premier recueil.
Qui est son premier recueil, mais après, j'ai tout lu, en fait. Une fois que j'ai commencé, son parcours m'a...
Son parcours vous a saisi. Et qu'est-ce que vous rappelez, peut-être, Sabine Huyn, une fois que vous aviez choisi ses pieds, quand vous avez ouvert ce livre et quand vous avez compris de quoi il était question, et que vous avez donc sans doute, j'imagine, si c'était les œuvres complètes, on va y revenir, commencé par le tout début, 1960, qu'est-ce que ça vous a procuré?
Alors, vous allez être déçue, je n'ai pas ouvert le livre tout de suite, puisque moi, ce que je voulais, c'était la photo. Donc, j'ai mis cette belle photo... dans mon petit appartement.
L'objet totem, livre voilà, en tant qu'objet totem.
Totalement.
C'est-à-dire qu'au début, ça vous plaisait d'avoir un recueil féminin avec une femme qui avait des beaux pieds.
Et puis j'avais cette femme qui me regardait tous les jours. Et puis de temps en temps, j'ouvrais le recueil et je lisais un poème. Et j'y comprenais pas grand-chose parce qu'en fait, elle abordait des questions qui m'étaient alors inconnues. Puisque j'avais donc la vingtaine et je n'étais ni mère, ni... Enfin voilà, donc j'arrivais pas à accrocher, à m'identifier à ce que je lisais. Donc, mais bon, parfois il faut avoir vécu un peu pour comprendre certains poètes. Et je l'ai comprise bien plus tard, en fait. Voilà.
Pour qu'on soit avec elle, on va peut-être écouter la voix d'Anne Sexton qui nous lit... un poème issu de son tout premier recueil, c'est la Anne Sexton première période, un poème extrêmement important puisque d'ailleurs il va ensuite baptiser son groupe de rock avec le titre de ce poème, c'est Her Kind.
Her Kind. I have gone out a possessed witch, haunting the black air, braver at night, dreaming evil. I have done my hitch over the plain houses, light by light. Lonely thing, 12-fingered, out of mind. A woman like that is not a woman quite.
Je suis sortie, sorcière possédée, hantant les sombres atmosphères, enhardie par la nuit, rêvant des méfaits. J'ai sillonné par les foyers de la plaine, de lueur en lueur, ombre solitaire à 12 doigts, inaperçue. Une telle femme n'est pas tout à fait une femme. Je fus de son espèce. J'ai trouvé les grottes chaudes dans les bois. Je les ai remplies de poils, de gravures, d'étagères, d'armoires, de soie, de biens innombrables. J'ai fait à dîner aux asticots, aux lutins, gémissons, raffinant l'ordre du désordre. Une telle femme est incomprise. Je fus de son espèce. Je suis montée dans ta charrette, cochée. J'ai agité mes bras nus vers les villages défilants, découvrant les sentiers lustrés, survivante ici où tes flammes mordent encore mes cuisses et mes côtes craquent au tourbillon de tes roues. Une telle femme n'a pas honte de mourir. Je fus de son espèce.
And my ribs crack where your wheels wind. A woman like that is not ashamed to die. I have been her kind.
Alors, ça n'est pas votre traduction, Sabine Huyn, celle-ci.
Si, j'ai entendu.
C'est ça. C'est la traduction en français d'un documentaire qui est sorti avant que vous entrepreniez cette très grande entreprise de traduction. Parce que, donc, vous rencontrez Anne Sexton aux États-Unis. Vous, Laurence Bessel, vous allez nous dire comment vous l'avez trouvée. Mais en fait, elle n'était pas traduite en français jusqu'à très récemment, Anne Sexton. Comment c'est possible qu'elle ait une telle influence, puisque je ne l'ai pas dit, mais elle a été prix Pulitzer. On va y revenir. Mi-temps de sa vie, elle a eu une poésie qui a tout de suite eu un effet quand même assez déflagrateur aux États-Unis. Et pourtant, elle était très peu lue en France, en fait, Sabine Huyn.
En fait, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je ne sais pas pourquoi elle a pas été traduite avant. Je sais pas. On peut aussi se demander pourquoi elle a pas été traduite, en espagnol. Avant non plus, enfin jusqu'à je ne sais plus quelle année, 2013. Et puis en Italie, elle a aussi été traduite très tard et vraiment au compte-gouttes, recueil par des éditeurs différents. Donc je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, alors qu'effectivement elle était très 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 célèbre. Mais c'est vrai que vers la fin de sa vie, sa popularité a baissé. Aussi, donc ça a peut-être joué. Enfin, apparemment, les critiques ont été très déçues par ces derniers recueils, par ceux-ci.
C'est ceux que vous traduisez aujourd'hui, parce que du coup, on peut le redire, c'est ce recueil qui paraît, c'est les trois derniers recueils écrits par Anne Sexton, 72-75. On va évidemment rentrer dans le détail un peu plus tout à l'heure, mais avant ça, il y avait eu une œuvre très riche et qui avait eu un grand succès aux États-Unis dans les années 60, où elle faisait entendre cette voix qui était une voix un peu particulière et dans le cadre d'un essor de cette littérature, alors dite confessionnelle. Vous, dans votre thèse que vous consacrez à Anne Sexton, Laurent Bessel, vous parlez, vous utilisez d'autres mots et vous tentez de définir. Elle pouvait, vous dites testimonial, il y a aussi une littérature de l'intime. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'était quoi ce courant? Qui étaient les gens qui écrivaient, qui étaient d'ailleurs peut-être Robert Lowell, avec qui, aux côtés de qui vous la présentez dans cette thèse? C'était quoi cette littérature du jeu qui émergeait à l'époque?
Alors, ce mouvement dit confessionnel vient de l'anglais, en fait, confessional.
Il y a une dimension religieuse, du coup.
Oui, mais à l'époque, ça avait aussi, il faut aussi prendre en compte le contexte de l'essor de la psychanalyse, en particulier sur la côte Est. Et donc, ce terme a été introduit par la critique à propos d'un recueil de Robert Lowell, justement, pour signifier une écriture poétique de l'intime, de la révélation de soi, associée à l'expression d'une culpabilité. Et souvent, voire quasiment pour tous les poètes et toutes les poétesses de ce mouvement, associé à une souffrance psychique, à des désordres d'ordre psychiatrique dont il était fait état dans l'œuvre. Parce que ce qui compte, c'est comment c'est mis en écriture. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ont vécu ça. Mais là, voilà un mouvement qui en faisait un sujet, selon cette critique. Et je pense que peut-être, quand on parle de pourquoi Sexton n'a pas été traduite, etc., elle a peut-être souffert de cette étiquette de « oh, c'est une poésie qui ne fait que de parler d'elle-même ». au détriment d'une analyse plus précise de son écriture.
Et au détriment d'une idée peut-être de la poésie pour la poésie, que c'est vraiment
voilà.
De la poésie, ça n'a
c'est
pas
part...
simplement un caractère de témoignage et que peut-être qu'elle a été réduite à ça, surtout en tant que femme. Alors vous venez de le dire, cette souffrance psychique, qui est Anne Sexton? Elle est née en 1928 à Newton, donc dans le Massachusetts. Et est-ce que vous pouvez nous raconter justement, on va regarder dans quelles conditions elle se met à écrire. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une femme qui n'a pas fait d'études supérieures, qui s'est mariée à 20 ans, comme la plupart des femmes de son époque, avec Alfred Muller Sexton, qui était connu sous un pseudonyme. Cayo, qu'est-ce qu'il se joue dans sa vie? Pourquoi est-ce que il y a cette idée et cette force et cette omniprésence de la folie dans cette œuvre d'Anne Sexton? Sabine, peut-être, ou vous, Laurence?
Oui, je peux rebondir sur...
Oh mais oui, rebondissez.
Que Laurence a dit juste avant, en fait, par rapport à... Parce que pendant que vous parliez, Laurence, je me suis dit, tiens, c'est vrai, puisque... en fait, le recueil d'Anne Sexton qui s'est le mieux vendu, c'est Transformation, qui est le cinquième recueil, qui est tout à fait à part dans son œuvre. Et c'est celui qui était le moins autobiographique, en fait. Et c'est celui qui s'est le mieux vendu. Mmh. Donc c'est très intéressant, voilà, le fait que vous ayez dit que son œuvre était peut-être boudée parce qu'elle était peut-être trop autobiographique. Et du coup, bon... Voilà.
Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, quelle est la portée autobiographique de cette œuvre? Qu'est-ce qu'elle y raconte?
Alors,
dans cette œuvre?
Oui, comme l'a dit Laurence avant, donc Anne Sexton, au départ, en fait, Anne Sexton, c'est vraiment une histoire de, pour reprendre le mot transformation, de transformation totale. C'est qui se transforme en papillon à travers la poésie. À 20 ans, elle était femme au foyer, deux enfants en bas âge, et des dépressions postpartum. Voilà, qui l'ont fait finir à l'hôpital psychiatrique. Mais Anne Sexton, avant cela, elle écrivait déjà. Elle a commencé à écrire, en fait, au lycée, je pense vers l'âge de 15-16 ans. Il y avait une poète qu'elle adorait qui s'appelait Sarah Teasdale. Et elle a lu Teasdale, elle a écrit ses propres poèmes qu'elle a montrés à sa mère. Elle avait une relation très compliquée avec sa mère. Et sa mère avait elle-même des ambitions littéraires qui ont été contrariées. Bon, pareil, parce que c'était une femme au foyer, etc. Et donc sa mère, très jalouse, lui a dit... c'est pas toi qui l'as écrit, tu as plagié Sarah Teasdale. Elle a même montré les poèmes de sa fille à un prof de littérature, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Voilà, pour qu'il lui dise si c'était bien sa fille.
Pour savoir si c'était bien sa fille qui les avait.
Voilà.
Donc il y avait un soupçon.
Voilà. Et donc, à cause de cela, Anne a arrêté d'écrire complètement. Jusqu'à ce qu'elle voit cette émission à la télé du professeur Richards qui parlait des sonnets. Et donc, elle a écrit, je crois, un sonnet par jour pendant 3 mois, quelque chose comme ça. Et elle suivait une psychothérapie. Et c'est son psychiatre qui l'a encouragée à s'y mettre vraiment, en fait.
Et on va l'écouter nous raconter ça exactement.
Mm-hmm. I had a nervous breakdown.
En fait, j'ai vécu un effondrement psychique et par la suite, j'arrêtais pas de me dire, vous savez, je suis tellement bête, je n'arrive à rien. Ma mère était une femme très brillante et donc mon psychiatre m'a suggéré de regarder la deuxième chaîne. Il y a des programmes télévisés assez éducatifs, pourquoi pas y jeter un œil. Et j'ai regardé cette chaîne, il y avait Richards qui expliquait la forme du sonnet. Et je me suis dit, oh, donc c'est ça, un sonnet. Je me suis assise et j'ai écrit un sonnet. J'ai fait un texte assez mauvais, mais ça m'a beaucoup excitée. Et à partir de là, j'ai décollé, j'ai écrit comme une folle. À l'époque, j'écrivais à ce bureau jusque très tard le soir. D'abord, ça a été une table de jeu de cartes, parce que je prenais pas encore la portée du fait que j'étais une poétesse. J'ai installé un bureau dans notre salle à manger, parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour travailler. C'était toujours le chaos sur notre table à manger, impossible d'inviter qui que ce soit. Il y avait des feuilles, des livres, la totale. Puis j'ai installé des étagères, et tout ça était évidemment à l'essai. Mais à l'époque, à chaque instant où je m'occupais des enfants, jusqu'à 3h du matin, j'écrivais, je me traînais ensuite vers la chambre, je me réveillais à 6h pour m'occuper des gosses, et je travaillais, je retravaillais un poème qui bien sûr était toujours mauvais. Anne Sexton, on entend bien dans cette archive qu'en fait elle le fait contre presque la nécessité de la vie d'une, d'une femme au foyer. Avant de rentrer dans, dans ses derniers écrits, qu'est-ce qu'il raconte dans ses premiers poèmes? Alors vous, vous avez passé des années, je crois, à Sabine Huyn, avec aux côtés d'Anne Sexton, parce que quand vous avez commencé, c'est ce que vous racontez dans cette préface, à la traduire, vous étiez une jeune femme. Comme vous l'avez dit, vous n'aviez pas encore connu la maternité. Qu'est-ce qui se joue dans, dans ses premiers recueils? Vous le dites, c'est son cinquième qui se vendra le mieux, Transformation. Mais il y a eu Live or Die en 66, il y a eu donc To Bedlam and Part Way Back en 60, All My Pretty Ones en 62, Live or Die, je vis ou je meurs, Love Poems, poèmes d'amour et transformation. Mais qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qu'elle apporte dans la poésie qui n'y était pas, Anne Sexton? Elle apporte des choses qui n'avaient pratiquement jamais existé.
Alors, ben, déjà, il faut savoir que l'Amérique, enfin, il faut se rappeler que l'Amérique des années 50-60 était une Amérique très conservatrice, puritaine. Et Anne Sexton, elle en avait ras la casquette de, voilà, de cette société-là. Et donc, on l'a entendu dans son poème Her Kind, que vous avez lu tout à l'heure. C'est, elle, elle se sentait vraiment pas à sa place dans cette société-là. Elle, elle se voyait comme, comme d'une, d'une autre espèce, pratiquement comme une sorcière vivant dans une grotte avec des lutins, tellement elle se sentait pas à sa place, même dans, dans la société, dans sa vie, dans sa famille, avec ses enfants. Donc ça, je pense que ça n'a fait qu'exacerber ses, une certaine fragilité mentale déjà. Et les premiers recueils parlent surtout de ça. En fait, bon, comme, comme ce sont des recueils qui ont été, enfin des, pardon, des poèmes, une écriture qui a été encouragée au départ par la psychanalyse, ce sont je pense des poèmes très psychanalytiques où vraiment Anne Sexton s'analyse. Et elle essaye de, voilà, de trouver peut-être, je vais peut-être un peu loin en disant ça, mais peut-être de trouver une explication à ce qui la torture. Mais je crois pas, non, c'est plus un retour vers le passé et pour essayer d'analyser ses nœuds et de peut-être se, même se construire une identité grâce à l'écriture. Et bon, donc ce sont des recueils qui parlent des séjours en hôpital psychiatrique, mais aussi des relations avec sa famille qui étaient très compliquées, et de sa colère, je pense. Enfin, peut-être Laurence peut...
Oui, oui, alors, oui, oui, par rapport à la psychanalyse, c'est vrai qu'elle lit Freud, du coup, et que, en fait, c'est plutôt qu'elle elle prend... l'outil psychanalytique comme grille de lecture et qu'elle utilise y compris dans son écriture poétique en fait, plutôt que de que l'écriture soit une genre, un genre de thérapie, etc. Donc elle prend plutôt les, la grille parce qu'en fait aussi elle était angoissée, elle voulait surtout pas être psychotique. Et quand le psychiatre lui propose de, plutôt des entretiens aussi, il faut dire qu'elle a échappé aux électrochocs hein, dans l'histoire quand même, grâce à lui. Et donc, il lui propose plutôt de lire beaucoup, etc. Et elle, à ce moment-là, oui, elle lit Freud en particulier, mais moi j'ai le sentiment, oui, qu'elle a, elle a plus pris là une grille d'explication qu'on retrouve dans sa poétique. Et puis elle a des thèmes aussi quand même sur la maternité.
Sur la jouissance, elle parle quand même
sur la sexualité féminine,
féminin,
exactement.
Et vous le dites dans l'introduction de votre thèse, qui ont un statut un peu étrange, par exemple, qui sont lus, on la trouve trop excitée par rapport à Sylvia Plath, par exemple, qu'elle connaîtra, qu'elle rencontre, elle va même écrire un poème à sa mort, évidemment. Elle a ça, le fait que ce soit si carné, enfin incarné, à la fois ébloui, mais pose presque problème parce qu'elle parle de son désir et puis elle parle des choses moches du corps de la femme. Femme, que dans ces années-là, personne n'écoute et personne ne lit.
Oui, oui, ça lui est reproché des critiques qui lui reprochent le vocabulaire, tout ce qui est de l'ordre du scatologique, du trop cru, du trop sexuel aussi. Et puis, elle a quand même ce mentor qui est justement Robert Lowell, qui à un moment va lui dire, au moment de justement de Live or Die, vie ou meurt, au moment où elle, son écriture bifurque vers une écriture proche de l'hallucination et de l'inconscient, où il lui dit stop, il lui dit non, là ça va trop loin, le dévoilement de soi va trop loin, remet un peu de contrôle dans tout ça. Et elle refuse, et elle va continuer, et ça va nous amener au dernier recueil où on sent vraiment que là, elle laisse aller toute la puissance de son pouvoir d'imagination et toutes ces images extraordinaires qu'elle a en tête et qu'elle couche sur le papier. Elle avance.
Elle avance et on va avancer avec elle. Mais avant ça, on va écouter une chanson du chanteur Morrissey, le leader britannique du groupe Les Smiths, qui dit que Anne Sexton a été une pierre de touche dans sa vie. Et il lui arrive souvent de diffuser des images de la poétesse avec ou sans pied, on ne sait pas, Sabine Wynne, quand il chante cette chanson qui s'appelle Alma Matters. Alors le choix que j'ai fait peut vous paraître étrange, mais qui vous demande votre avis? C'est ma vie à détruire, à ma façon. Tu vois, pour quelqu'un, quelque part, l'âme compte dans l'esprit, le corps et l'âme, en partie et en totalité.
Culture, le Book Club, Zoé Spez.
Folie, fureur et ferveur, c'est le titre de ce dernier recueil d'Anne Sexton à découvrir en français. Celui d'avant, Le Grand Saut, un recueil qui en fait en réunit trois. Le Livre de la Folie, Les Carnets de la Mort et L'Épouvantable Traversée à la Rame jusqu'à Dieu, un recueil dont elle a corrigé les épreuves juste avant, justement, de se donner la mort. Ce corps féminin dont elle avait tant exploré les désirs, les jouissances, Anne Sexton le décrit comme malade, épuisé. Il y est question évidemment du mal, de ce Dieu qu'elle cherche et qui reste silencieux, et de la mort qu'elle va bientôt choisir. Tantôt hachée, haletant, tantôt mystique, désespérée, l'écriture de Sexton y change, elle s'y déploie vraiment. Elle s'y fait parfois proprement hallucinée, voire incantatoire. Il s'agit plus parfois de prières, autant que de récits. Peut-être pour essayer d'entrer avec vous dans le cœur du texte de cette langue d'Anne Sexton, on peut entendre la question de notre auditeur, puisqu'on a toujours une dans le book club. C'est Julien qui a lu ce recueil et qui a cette question pour nous.
Bonjour le Book Club, j'ai lu l'anthologie Folie, Fureur et Ferveur d'Anne Sexton et ça a été un vrai bouleversement dans ma vie de lecteur. La plume de Sexton est habilement traduite. Elle est libérée, déchaînée et stoïque tout à la fois. Elle est d'une justesse folle, intemporelle et culottée. J'ai vraiment été frappé par cette lucidité qu'elle a de sa propre fin, par sa déification émouvante de l'écriture qui prend toute la place, sans jamais tomber dans le mélodrame. Elle transcende vraiment l'intimité du confessionnalisme pour prendre une posture de prêtresse qui pose des mots puissants et exacts sur la féminité et sur la maladie mentale. Et je trouve qu'en tant que personne ayant souffert ou souffrant de troubles mentaux, on est vraiment atteint par cette authenticité. Alors j'aurais une question. Quel a été votre travail de réflexion sur le titre de ce dernier recueil et de quelle manière l'avez-vous constitué? Merci pour votre réponse.
Merci Julien pour cette belle question. Alors là, je me tourne vers Sabine Huyn, la traductrice. Habile traduction, dit Julien, parce que vous faites ces choix et vous êtes obligé à un moment donné de resserrer ce titre, Folie, Fureur et Ferveur.
En fait, ce titre, je l'ai eu tout de suite. Voilà, donc avant même de commencer à traduire, puisque bon, bah, à cause des titres des recueils eux-mêmes, c'était le livre de la folie, ensuite les carnets de la mort, et enfin donc l'épouvantable traversée à la rame jusqu'à Dieu. Donc dans le livre de la folie, donc voilà, il y a le mot folie. les carnets de la mort, ce sont des poèmes où je crois que c'est dans ce livre-là qu'il y a la série de poèmes sur les furies. Donc voilà, donc d'où la fureur. Et enfin, la ferveur religieuse. Mais bon, non, Anne Sexton n'était ni religieuse, ni croyante, ni quoi que ce soit. Mais c'était une ferveur mystique, en fait, dans laquelle Dieu et la mort étaient un peu mélangés dans sa tête. Voilà.
Dieu et la mort. Alors, je ne veux pas gâcher la préface très courte, mais extrêmement incisive que vous livrez dans ce travail final de traduction, mais aussi d'accompagnement que vous avez vécu avec Anne Sexton, Sabine Huyn, vous l'avez traduite intégralement. Mais vous dites, il m'a fallu aimer, souffrir, devenir mère et prendre de l'âge pour mieux appréhender ce travail féministe et autobiographique qui élève le désir, les émotions, les passions, la consolation, du fait qu'il est centré autour du corps féminin et comprendre à quel point les attentes aberrantes à son égard peuvent ficher en l'air un esprit sain et mener une femme à se foutre en l'air. Qu'est-ce qui se joue dans ce recueil qui peut-être, vous qui avez tout lu et tout traduit, donc ça veut dire, ça suppose de se mettre dans la langue de quelqu'un, qu'est-ce qui reste dans ces trois recueils qui sont les trois derniers et on va revenir évidemment sur chacun d'entre eux, mais le dernier, elle corrige les épreuves le matin même. Elle l'a écrit très très vite et elle se donne la mort après avoir eu rendez-vous avec son éditeur. Qu'est-ce qui vous a, vous, touché, ou en tout cas, qu'est-ce que ça vous a laissé, cette fin de parcours avec elle, avec ces trois recueils-là? Pourquoi ils sont si particuliers?
Touché est vraiment le bon mot, puisque, enfin, si... Bon... Je ne veux pas parler de moi, mais bon, moi-même, j'ai fait une dépression postpartum. Donc, voilà. Donc, pour moi, Anne Sexton, c'est vraiment une grande sœur qui a vécu des choses avant nous et donc qui a posé des mots, voilà, sur ces choses-là. Et nous aurions été bien incapables de le faire nous-mêmes, puisqu'il faut un immense talent pour le faire. Et aussi comment dire, elle se fichait totalement des conventions, donc c'est ça qui c'était sa grande force, en fait. Ces recueils sont très importants parce que déjà ils sont très différents du reste de l'œuvre, dans la mesure où Anne Sexton n'est plus un sujet d'analyse dans ces trois recueils-là. Elle
s'est libérée presque de ça.
Voilà.
En fait.
Elle ne cherche plus à examiner quoi que ce soit. Elle fait part de sa colère immense contre tout ce qui lui a fait du mal, en fait. Les médecins, Dieu qui n'existe pas, son père, sa famille. Son père, il y aurait peut-être eu inceste, on ne sait pas trop. Même contre ses enfants. Donc elle ne cache plus rien, et contrairement au premier recueil, aux quatre premiers recueils, où Elle faisait état du chaos et elle organisait le chaos avec la forme poétique dans Folie, Fureur et Ferveur. Elle fait moins attention à la forme, en fait. Pour les premiers recueils, elle établissait vraiment des schémas de rimes donc sur la page qu'elle remplissait ensuite. Donc c'est une façon très intéressante de travailler. Et tandis que dans Folie, Fureur et Ferreur, on voit que c'est voilà, de la lave de volcan qui se déverse d'elle. Donc la forme est plus relâchée, certes, et on l'a critiquée pour cela. Mais ça ne veut pas dire que les poèmes étaient moins poèmes. Et elle se sert plus de métaphores, de comparaisons. Donc bon, des fois, ça peut paraître un peu lourd. Il y a des poèmes qui contiennent, je ne sais pas, 50 comme et comme et comme et comme et c'est comme et comme. Mais en même temps... C'est assez extraordinaire, cette liberté et cette franchise et cette honnêteté.
Cette énergie, quand même, quand on la lit, il y a une énergie incroyable qui se déploie.
Et ce n'est pas les tout derniers recueils, il y en a encore deux que je suis en train de traduire.
Oui, voilà. Mais en plus, vraie erreur. Donc c'est évidemment 72-75, puisque 75, c'est la parution, mais elle nous a déjà quittés à cette époque-là. Peut-être pour commencer par le premier recueil, on peut vous entendre avec votre voix, Laurence Bessel. Vous avez choisi un poème issu de ce premier recueil, le livre de la folie, qui s'appelle « L'âge du vol et des clochettes du traîneau ».
Ange du vol et des clochettes de traîneau. Ange du vol et des clochettes de traîneau, connais-tu l'immobilité? Cette maison d'éther dans laquelle tes bras et tes jambes sont en ciment? Tu es aussi raide qu'un maître. Tu embrasses comme une poupée. Le cerveau tourbillonne dans une crise. Le cerveau n'a rien d'évident. Je suis retournée à ce même endroit sans germe ni AVC. Un petit numéro en solo. Cette dame au cerveau cassé. De cette manière, je suis devenue un orme. Je suis devenue une urne que tu peux saisir et lâcher à loisir, enfin inanimée. Quelle chance inhabituelle! Mon corps résistant passivement. Une partie des restes. Une partie de la tuerie. Ange du vol, toi qui planes. Toi qui bats des ailes, toi qui oscilles, toi la mouette qui pousse sur mon dos dans mes rêves favoris, ne t'éloigne pas. Mais donne-moi le totem, donne-moi le coma où je me tiens debout dans des souliers de pierre tandis que le vélo du monde passe.
Pourquoi vous avez choisi ce poème, Laurence Bessel ?
J'ai choisi ce poème parce que j'aime beaucoup sa forme, son écriture, les images. Je le trouve très beau, posé là, au milieu parfois de la fureur et de la ferveur. On retrouve toutes les images aussi qui sont très importantes pour Sexton. La poupée, la pierre, l'immobilité, la paralysie, le côté tragique, puisque ça fait partie d'une série de sonnets qui traitent de ce thème du double, hein, des deux Anne Sexton qu'elle ressentait. Et puis, j'aime beaucoup l'image de la mouette, des ailes de mouette, qui est une image de la mouette qui revient hein, dans ses recueils, de ce désir d'envol un peu désespéré et tragique qui me touche beaucoup par la façon dont c'est écrit. Et puis, j'aime bien le fait que, finalement, elle revient au sonnet à ce moment-là, à un moment où on l'a dit, vous l'avez dit, Sabine, son écriture s'est débridée. Et puis, tout d'un coup, elle revient au sonnet qui est à l'origine de sa vocation poétique, en fait. Et c'est un sonnet d'influence shakespearienne, même. Hein, c'est, voilà. Et elle revient quand même à ce rapport à l'écriture, une écriture un peu formalisée. Mais là, c'est tout à fait autre chose, en fait.
Vous parlez du double et c'est très intéressant parce que c'est toute la question qu'on peut se poser, et vous l'avez dit, à ce statut un peu étrange de cette poésie, à ses débuts et puis même encore dans la manière dont la critique la regarde. Vous présentez ou vous supposez que la force de cette littérature, c'est évidemment que beaucoup de gens vont s'y retrouver. On a entendu ce que ça suscite chez Sabine Huyn qui l'a traduite, mais on a entendu aussi dans le témoignage de Julien, qui en est presque un, la force, est-ce que ça crée quand on a eu une dépression post-partum, si on a eu une lutte contre la maladie mentale. Alors pour elle, justement, on est dans ce moment des années 60 où elle est diagnostiquée hystérique et ou bipolaire, on ne saura jamais vraiment, parce qu'elle est très tributaire aussi de ce que la médecine calque, notamment sur les femmes, puisque la notion d'hystérie, elle est encore très très marquée par Freud et par la misogynie. Mais vous dites que finalement, cette littérature qu'elle produit, à la fois c'est vraiment quelque chose qui la sauve, et à la fois c'est quelque chose qui l'a peut-être enfermée dans sa vie.
Oui, je pense vraiment, d'ailleurs elle l'a exprimé, elle le dit dans sa poésie aussi, dans ses textes, c'est-à-dire que petit à petit elle s'est trouvée comme enfermée dans un masque de cette femme qui raconte sa souffrance psychique, qui fait des lectures publiques. Effectivement, il y avait ce rapport au corps, elle lisait ses textes pieds nus, souvent dans des longues robes rouges, et il y avait ce phénomène d'identification, alors qu'elle a évolué, et à un moment, elle en est arrivée à se sentir prisonnière, finalement, de ce rôle-là. Elle lisait aussi pour des raisons financières à la fin de sa vie, mais c'était une épreuve pour elle. Et ça m'a frappé le témoignage de l'auditeur, parce que j'ai l'impression de lire des lettres de l'époque, des véritables lettres de fans.
Ouais, parce qu'elle a eu des vrais fans.
Mais oui, qui lui écrivait, ouais. Les lettres, on peut les consulter à l'Université du Texas, à Austin. Et l'auditeur, ça m'a vraiment frappé. J'avais l'impression, presque mot pour mot, de lire une lettre adressée à Sexton à l'époque de personnes qui lui étaient reconnaissantes.
On va écouter quand même une archive assez précieuse issue de ce documentaire qui lui est consacré, où on l'écoute parce que la musicalité de son texte est particulièrement forte et je trouve encore plus intéressante dans ces recueils-là, encore plus presque qu'au début, qu'elle a eu ce fameux groupe dit de rock, mais en fait c'est un peu à la lisière du spoken word qui se pratiquait beaucoup à l'époque. Vous allez l'écouter, écouter un morceau de Chopin. Ça dit quelque chose de son rapport à la musique, mais ça dit aussi quelque chose de son immense vitalité. Écoutez.
When this comes in, there's a theme on this. Here it comes.
Écoutez là, ce thème qui arrive.
This is very different.
C'est très différent de ce qu'il fait avant. Écoutez là. Je vais vous dire quel poème j'ai écrit en écoutant ça. Ton visage sur le cou du chien. Ça n'a aucun sens, non? C'est un poème d'amour, celui-là. Cette chanson, c'est exactement comme Femme l'amour. Je crois que c'est la chose la plus sensuelle que j'ai jamais entendue. Bon, je vais pas non plus avoir un orgasme devant vous. Non mais, écoutez. Mais vous entendez comme c'est sexuel, ça? Je veux dire, c'est tellement beau. C'est comme ma fille. Elle aussi, elle est comme tout ce qui est en vie. J'adore. Regardez comme ça monte. Ressentez-le. C'est mieux qu'un poème. La musique nous dépasse. J'avais envie qu'on entende Anne Sexton dans cette version-là d'elle, parce qu'elle est pleine de vitalité. On sent cette question du plaisir. Elle a aucun problème à dire qu'elle pourrait avoir un orgasme devant la caméra. Elle fait allusion aussi à sa fille. Et il y a quand même quelque chose dans ces poèmes, les derniers recueils, qui sont comme ça une espèce de coulée de sève, Sabine Huyn. Peut-être vous pourriez nous dire justement, avant de nous lire un extrait que vous avez choisi, qui est issu de ce tout dernier recueil, cette espèce d'ambivalence entre quelque chose qui relève de la sève et quelque chose qui est déjà un pied dans la mort. Parce que là, elle dialogue vraiment avec Dieu et avec l'autre côté.
En fait, je crois que... Bon, vitalité, c'est vraiment le bon mot pour Anne Sexton, pour définir Anne Sexton. Et surtout quand on a lu sa correspondance. Moi, j'ai lu toute sa correspondance et elle est drôle. C'était une femme formidable, vraiment pas du côté de la mort, elle était du côté de la vie, elle n'était pas du tout macabre, même si elle était obsédée par la mort, mais son obsession par la mort était due à ses troubles psychiques qui étaient certainement maltraités à l'époque. Elle a été maltraitée elle-même, c'est-à-dire en hôpital psychiatrique. Donc Anne Sexton, c'était quelqu'un du côté de la vie, vraiment.
Du côté de la vie, et ce dernier recueil, elle dit qu'elle a écrit les brouillons entre chez elle et l'hôpital psychiatrique, justement. Ce tout dernier recueil qui est le dernier, alors il y a vraiment un recueil central consacré à Dieu, mais l'épouvantable traversée à la rame jusqu'à Dieu comprend un poème avec cette image très forte qui donne son titre au poème, c'est Ramé.
Ramé. Une histoire, laisse-la aller, laisse-la venir. Je fus estampillé comme le garde-boue d'une Plymouth à mon arrivée en ce monde. D'abord vint le berceau avec ses barreaux glacés, puis les poupées et la dévotion à leurs bouches en plastique. Puis il y eut l'école, les petites rangées bien droites de chaises, les sempiternelles pâtées en écrivant mon nom, mais la tête toujours ailleurs, une étrangère aux coudes en panne. Puis il y eut la vie, avec ses maisons cruelles et les gens qui se touchaient rarement, alors que le toucher, c'est tout. Mais je grandis, comme un porc dans un impair, je grandis. Puis il y eut de nombreuses apparitions bizarres, la pluie agaçante, le soleil se transformant en poison, et tout le reste, des scies labourant mon cœur. Mais je grandis, et Dieu était là, comme une île vers laquelle je n'avais pas encore ramé, ignorant toujours qui il était. Mes membres fonctionnaient, et je grandis. Je portais des rubis, et j'achetais des tomates. Et à présent, d'âge moyen, à peu près 19 ans d'âge mental, je rame. Bien que les tollets soient collants et rouillés, et que la mer clignote et roule comme un œil inquiet, mais je rame, bien que le vent me ramène, et je sais que cette île ne sera pas idéale, qu'elle aura les défauts de la vie, les aberrations d'une table de salle à manger. Mais il y aura une porte, et je l'ouvrirai, et je me débarrasserai du rat en moi, le rat pestilentiel qui ronge. Dieu le prendra entre ses mains et le serrera dans ses bras. Comme le disent les Africains, c'est mon histoire que j'ai racontée, qu'elle soit douce, qu'elle ne le soit pas, qu'elle s'en aille et qu'elle me revienne en partie. Cette histoire se termine avec moi qui rame encore.
Merci Sabine Huyn pour cette langue qui est à la fois celle d'Anne Sexton et la vôtre. Il nous reste quelques minutes à échanger ensemble, mais cette langue-là, on sait qu'elle avait des brouillons et qu'elle réécrivait. Vous, comment vous avez travaillé cette langue comme ça, c'est ce poème-là ?
Je pense que, bon, déjà pour bien traduire la poésie, il faut être poète.
Ce que vous êtes.
Oui, j'essaye en tout cas. Et aussi se connecter à sa propre vulnérabilité, à soi. Donc voilà. Mais c'est pas évident de traduire Anne Sexton. Et en fait, avant de commencer à la traduire, j'ai lu toute sa correspondance, j'ai lu tous les articles sur lesquels j'ai pu mettre la main, sur son travail. J'ai lu la biographie que Diane Middlebrook lui a consacrée. Voilà. Et une fois que j'avais la matière, je pouvais
rentrer dans son rythme, rentrer dans sa voix, quelque chose.
Oui, et puis à nouveau, oui, c'est vraiment lié au vécu. Donc chez Anne Sexton, donc c'était un vécu qui est personnelle à elle, mais qui est aussi universelle. Je veux dire, tout ce dont elle parle, ce poème, c'est un poème universel. Tout le monde rame, tout le monde peut s'identifier à ce poème. Donc, pour la traduire, il faut vraiment... voilà, un poème sur Anne Sexton qui rame, et ben, moi aussi j'ai ramé, donc je me connecte à ça, et ça me permet de trouver le ton.
Le ton de la rame et le ton de ce, oui, effectivement, c'est un rythme aussi, celui de la rame.
Parce que c'est le désespoir et l'ironie en même temps.
Donc, oui, parce qu'on oublie de le dire, on a parlé de sa vitalité, mais c'est une femme qui oscille entre le désespoir et beaucoup d'ironie, elle est aussi très drôle, hein, c'est ça.
Oui. Ben le recueil Transformation dont on parlait en est un exemple savoureux, même s'il contient aussi des choses très graves. Mm-hmm. Cette relecture des contes, c'est un...
Une relecture des contes, vous avez consacré Grimm. Plusieurs articles à ça.
Oui, qui est très mordante, qui parfois prend aussi une tournure féministe un peu décapante, et qui est, qui contient beaucoup d'humour noir aussi. Hein. Ouais. Et je suis d'accord avec ce que vous disiez sur le fait qu'elle avait aussi un côté, il y avait un décalage, elle était du côté du soleil aussi, beaucoup. Elle adorait le soleil.
Elle adorait la joie, et on peut redécouvrir tous ses poèmes et tous ses recueils aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, le dernier recueil en date, c'est Folie, Fureur et Ferveur, et la suite, on l'attend de vous. Le Book Club, ça continue.
France Culture, le Book Club, Zoé Spez.
15h50 sur France Culture. Bonjour Nicole Vulser.
Bonjour Zoé.
Chaque semaine, vous nous parlez de l'économie du livre. Et aujourd'hui, vous consacrez votre chronique à André Chiffrine, le prophète de la financiarisation de l'édition.
De temps en temps, il faut revenir à des valeurs fondamentales. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un éditeur mythique. André Chiffrine, né en 1935 et mort en 2013 à Paris, après avoir travaillé toute sa vie aux États-Unis. Pourquoi lui ? Parce qu'il a le premier dénoncé les affres de la financiarisation dans l'édition. Dans un petit ouvrage lumineux, l'édition sans éditeur, publié en 1999 par la Fabrique Édition, il raconte par le menu la façon dont Pantheon, la prestigieuse maison d'édition américaine qu'il dirigeait, a été rachetée à deux reprises par le groupe Random House en 1961, puis avalée toute crue par le groupe New House en 1980. Pantheon avait été créé en 1941 à New York par son père, Jacques Chiffrine, le fondateur de la Pléiade, juif exilé pendant la guerre. Pantheon publiait Michel Foucault, Günter Grass, Claude Simon ou Marguerite Duras, mais aussi des Américains de la trempe de Noam Chomsky. Cette petite maison d'édition ne représentait que 2% du chiffre d'affaires de Random House et n'avait jamais coûté grand-chose à sa maison mère. Quand Random House a été vendu en 1980 à Samuel Irving Newhouse, tout s'est gâté.
Mais alors ça se traduit comment ?
Le nouveau patron, un ancien banquier, Alberto Vitale, a d'abord promis, la main sur le cœur, n'avoir aucune intention de se mêler de la conduite de Pantheon dont il admirait l'aura culturelle. La scène que raconte André Chiffrine est croustillante. Je le cite. « Lors d'une réunion décisive, il nous fut donné de voir quel abîme nous séparait. Vitale passait en revue les livres que nous allions publier, liste dont j'étais particulièrement fière. « Qui est ce Claude Simon ? » demanda-t-il avec mépris, n'en ayant visiblement jamais entendu parler. « Et ce Carlo Ginzberg ?» L'auteur poursuit. Vitale regardait la colonne des chiffres et ensuite seulement le titre des livres. Avant de lancer « Pourquoi publier des livres aussi lamentablement déficitaires ?» Fin de la citation. Le nouvel actionnaire voulait donc que chaque titre soit rentable par lui-même et refusait qu'un ouvrage, comme les Simpsons par exemple, venu vendu à 1 million d'exemplaires, subventionne des titres plus exigeants. De plus, New House, très orienté à droite, n'hésitait pas à payer des avaloirs colossaux à Donald Trump, déjà lui, et a très vite demandé à Pantheon d'arrêter de publier, je cite, « tant de livres de gauche ». Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Le changement de physionomie du catalogue d'HarperCollins quand Rupert Murdoch l'a racheté en 1989 ? Ou encore la reprise en main et le coup de barre à droite de Fayard, depuis que sa maison mère Hachette appartient au groupe Vivendi de Vincent Bolloré. Je vous laisse juge et je termine mon histoire. Écœuré par cette pression idéologique et financière, l'équipe de Pantheon a démissionné en bloc, En 1991, André Chiffrine est reparti de zéro pour diriger la maison d'édition indépendante, ambitieuse et sans but lucratif, The New Press.
Mais alors pourquoi l'édition est passée d'un modèle artisanal à un business mondial, parfois pur et dur ?
Dans un autre petit ouvrage, L'argent et les mots, toujours publié par la Fabrique d'édition en 2010, André Chiffrine affirme qu'il n'y a guère de raison pour que l'édition d'aujourd'hui soit très différente de celle du 19e siècle qui suivait un modèle artisanal traditionnel, celui des illusions de Balzac. Je le cite. Le temps où l'édition était considérée comme un métier et non comme un business. Tout vient du fait que les maisons d'édition en Europe comme aux États-Unis réalisaient un bénéfice annuel moyen de 3 à 4% par rapport au chiffre d'affaires. Fin de la citation. Tout a changé au début des années 1980, quand les maisons d'édition ont été rachetées par des grands groupes de médias qui ont comparé leur rentabilité à celle de leur chaîne de télévision ou de leur radio, avant d'exiger de leur filiale d'édition une croissance du chiffre d'affaires de 10% par an et un bénéfice de 15%, ce qui les a contraintes pour y parvenir, à acheter constamment de nouvelles maisons d'édition. André Chiffrine affirme, je cite, que « petit à petit, les éditeurs sont devenus des investisseurs. »
Et d'ailleurs, aujourd'hui, les trois plus gros groupes mondiaux d'édition sont en effet des mastodontes.
Oui, Zoé. Cette financiarisation de l'édition, annoncée par André Chiffrine, est bel et bien advenue. Avec plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, le numéro 1 du secteur, Relix Group, détenu par le géant américano-britano-hollandais Riedel Zevir, spécialisé dans l'édition scientifique, médicale, technique et l'éducation, est une machine à cash valorisée à 90 milliards d'euros en bourse, soit 120% de plus qu'il y a 5 ans. Le numéro 2, Thomson Reuters, coté au Nasdaq, se définit comme une société technologique axée sur le contenu et investit des fortunes dans l'intelligence artificielle. Le numéro 3, Bertelsmann, premier groupe d'édition généraliste au monde, a dû se réorganiser après l'échec cuisant en 2023 de son rachat de la belle maison d'édition américaine Simon & Schuster. Gros ne veut pas toujours dire bonne affaire boursière. Depuis le 1er janvier 2021, l'action de Bertelsmann a dégringolé de 360 euros à 267 euros à la clôture hier soir.
Fort édifiant. Merci Nicole Ulcer. On retrouve votre chronique L'économie du livre sur l'application de Radio France. Pour finir, c'est l'heure du grand jeu, des pages musicales. Vous repérez dans les livres que vous aimez un passage où il est question de musique. Et aujourd'hui, c'est Laura, via le mail du Book Club, qui nous propose un extrait de Vernon Subutex, le roman de Virginie Despentes, en 3 tomes, plusieurs tomes, largement consacré de manière générale au rock. Mais cette fois-ci, c'est d'une chanteuse qu'on aime et que Marie Richeux, qu'on salue, aime particulièrement. Il est question aussi d'une poète que vous citez dans votre préface, Sabine Huyn. Elle écoute Barbara. Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu ? Et ça lui tire une larme. Elle profite qu'il n'est plus là pour mettre de la musique. Le vieux n'aimait pas la chanson française ni la poésie. Au début, elle croyait que c'était parce qu'il ne se sentait pas capable de comprendre ce qu'il racontait, comme un complexe qu'il aurait fait. Ensuite, elle avait pensé que c'était surtout pour l'emmerder, pour l'empêcher de mettre un peu de beau dans sa vie, que c'était pour lui garder la gueule dans la crasse et la merde, et que ça l'ennuyait qu'elle puisse accéder à des choses un peu plus belles que la rue d'en bas de chez eux. Elle avait fini par admettre qu'il n'y avait aucun complexe là-dedans, ni volonté de la réduire au médiocre. Il n'aimait pas la musique et la poésie. Il voyait ça comme de l'hypocrisie pour les bourges. Ses poèmes d'Emily Dickinson et d'Alejandra Pizarnik, ses disques d'Aznavour ou de Léo Ferré, de la merde pour les bourges. Pour qui se la raconte ? Un enfumage. Il voyait que ça.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Ça fredonne en studio. Vous aussi, mesdames, merci beaucoup. Sabine Huyn, merci Laurence Bessel, Anne Sexton, Folie, Fureur et Ferveur, œuvre poétique. C'est aux éditions Des Femmes, Antoinette Fouque, avec tous les précédents recueils. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à la merveilleuse équipe du Book Club, Jeanne Aléos, Léa Weisgruss. Vasgrus, Mathilde Wagman, Louise Hoth, Marianne Chassor et Alexandre Alaï-Begovic. Au son, c'était le merveilleux Dalia. Et à la réalisation, le non moins merveilleux Vivian Demeyer. Vous retrouvez évidemment l'équipe habituelle et notamment Marie Richieux et l'émission sur l'application de Radio France. Abonnez-vous.